L'évangile du baptême de Jésus qui nous a rendus purs. Éphésiens chapitre 2 versets 14 à 22. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce qui a éloigné l'homme de Dieu? Son péché l'a fait s'éloigner de Dieu. Un enfant adopté à cause de la pauvreté. Après la guerre de Corée, l'incident du 25 juin, il y eut une période où beaucoup de jeunes enfants de Corée furent envoyés à l'adoption dans d'autres pays. Lorsque la guerre de Corée a commencé, les forces des Nations Unies sont entrées en Corée et ont apporté leur aide, mais après leur départ, on dit qu'il ne restait que des enfants sans père. Cela s'explique par le fait que la plupart des soldats de l'ONU stationnés en Corée ont entretenu une relation de couple avec des femmes locales et même eu des enfants avec elles, mais une fois la guerre terminée, ils ont tout abandonné et sont retournés dans leur pays d'origine. Les enfants qui ont ainsi été laissés derrière ont finalement été de nouveau abandonnés par leur mère et envoyés dans des orphelinats, d'où ils ont été adoptés dans de nombreux pays à travers le monde. Il faut vraiment être reconnaissant que des personnes de divers pays aient adopté ces jeunes filles et les aient bien élevées. Avec le temps, les enfants adoptés ont fini par se rendre compte que leur apparence était différente de celle de leurs parents adoptifs et des autres autour d'eux, et ils ont découvert qu'ils avaient été adoptés d'un pays lointain appelé la Corée. Pourquoi mes parents m'ont-ils abandonné? Est-ce parce qu'ils me détestaient qu'ils m'ont abandonné dans ce pays lointain? De telles questions devaient être incompréhensibles pour le cœur d'un jeune enfant. Au début, ces enfants adoptés ressentaient de la curiosité et du ressentiment, mais peu à peu, un désir de voir le visage de leurs parents grandissait dans leur cœur. À quoi ressemblaient mes parents? Comment ont-ils pu m'abandonner? M'ont-ils abandonné parce qu'ils me détestaient? Non, il devait y avoir des circonstances particulières. Ils ont passé beaucoup de temps avec de telles pensées, parfois en comprenant, parfois en se méprenant, parfois en nourrissant de la haine, parfois en décidant de ne plus y penser, et ainsi de suite. Le temps passa, et les enfants devinrent des adultes. Dans un pays étranger, ils se marièrent, eurent des enfants, fondèrent de nouvelles familles et poursuivirent ainsi leur vie. La raison pour laquelle je me suis intéressée aux personnes adoptées est un programme télévisé qui explorait en profondeur la question de l'adoption. Dans ce programme, un reporter de télévision est allé interviewer une femme qui avait été adoptée en Allemagne et y vivait. Cette adoptée avait déjà plus de 20 ans et étudiait la théologie. Lorsque le reporter l'a rencontrée pour l'interview, elle était d'abord très réticente, car elle craignait que beaucoup de gens découvrent qu'elle était adoptée. Le reporter lui a demandé son aide, expliquant que, pour éviter que d'autres enfants soient envoyés à l'étranger pour adoption comme elle, sa coopération était nécessaire. Elle a accepté l'interview, disant que, bien qu'elle puisse en subir des préjudices, elle voulait empêcher que des enfants comme elle soient adoptés dans d'autres pays. Parmi les questions posées par le reporter, il y avait « Si vous rencontrez vos parents, quelle est la première chose que vous aimeriez leur dire ? De quoi êtes-vous le plus curieux ?» Elle a répondu « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi j'ai dû être adoptée ici. Je veux leur demander s'ils me détestaient. » L'interview a été diffusée en Corée et ses parents biologiques l'ont vue par hasard. Peu après, ils ont contacté la chaîne de télévision, disant qu'ils voulaient rencontrer leur fille. Et enfin, ils ont été réunis. Les parents biologiques, qui avaient été séparés de leur fille alors qu'elle était jeune et qui ne connaissaient même pas son visage, sont arrivés tôt à l'aéroport pour l'attendre. La fille, désormais âgée de plus de 20 ans et devenue elle-même mère, est sortie par la porte d'arrivée de l'aéroport. La mère n'a pu faire autre chose que verser des larmes. Ils ne s'étaient jamais vus en face. Les parents ont vu le visage de leur fille pour la première fois à l'écran de télévision. À l'aéroport, ils ont eu leur retrouvaille pleine de larmes. Même s'ils ne pouvaient pas communiquer avec des mots, ils se sont parlé avec le cœur en se regardant le visage. Ils se sont embrassés et se sont regardés encore et encore, et les parents n'ont cessé de s'excuser pour leurs erreurs. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient désolés et pleuraient sans fin. Elle a ramené sa fille à la maison et elles ont partagé des repas et des conversations ensemble. Bien sûr, la fille parlait allemand et les parents parlaient coréen, donc ils ne pouvaient pas communiquer avec des mots, mais il semblait que le simple fait d'être mère et fille leur permettait de ressentir de l'empathie l'une pour l'autre et de se comprendre. À travers de nombreux regards, gestes, le toucher de leur visage, et avec leur cœur, ils ont partagé d'innombrables conversations inexprimées par des mots. Ayant désormais la certitude que ses parents biologiques l'aimaient vraiment, la fille se prépara à retourner en Allemagne. Au moment de son départ, les reporters qui l'avaient interviewée auparavant sont venus la revoir. Ils lui ont demandé si elle avait trouvé la réponse à la question qu'elle voulait le plus poser à ses parents biologiques, pourquoi ils l'avaient envoyée dans un pays étranger. Elle a répondu, « Il n'était même pas nécessaire de poser cette question. Ma mère est toujours pauvre. Dans ce pays, les riches sont si fortunés qu'ils conduisent de belles voitures, mais ma mère vit encore dans la pauvreté. » Elle a poursuivi, même sans poser la question, et même si ma mère n'y répondait pas, j'ai pu voir que ma mère était si pauvre qu'elle m'a envoyée à l'étranger pour m'épargner cette pauvreté, il n'était donc pas nécessaire de poser cette question et tous mes doutes et mon ressentiment ont disparu, sur ces paroles, elle est repartie en Allemagne. À cause du péché, les êtres humains ont été séparés de Dieu. Pourquoi nous sommes-nous éloignés de Dieu et pourquoi ne pouvions-nous pas nous approcher de lui? La femme qui avait été adoptée en Allemagne a appris que ses parents biologiques l'avaient envoyée à l'étranger parce qu'il y avait la guerre dans leur pays et qu'il n'y avait pas de nourriture, et qu'ils voulaient sauver leur enfant. Mais pourquoi nous, qui avons été créés par Dieu à son image, sommes-nous devenus éloignés de lui? Pourquoi les êtres humains ont-ils dû vivre dans un état de séparation, loin de Dieu? C'est parce que Satan a tenté les gens, les poussant à pécher contre Dieu, et à cause de ce péché, les gens sont devenus éloignés de Dieu. À l'origine, Dieu a créé les êtres humains comme ses enfants, à son image, pour les aimer. Les humains ont été créés comme les plus précieux et les plus aimés de toutes les créatures. Cependant, Satan, l'ange déchu, s'est introduit entre Dieu et les humains, s'immisçant pour tenter les gens et les empêcher de croire à la parole de Dieu, si bien qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause de ce péché, les humains sont devenus éloignés de Dieu. Les gens ont désobéi à la parole de Dieu. Au lieu de manger de l'arbre de vie, que Dieu leur avait permis pour la vie éternelle, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait interdit. En conséquence, ils sont devenus éloignés de Dieu. Ceux qui étaient les objets de l'amour de Dieu se sont éloignés de lui par la désobéissance et l'orgueil, et, le péché étant entré et demeurant dans le cœur humain, les gens ont été coupés de Dieu. Pendant longtemps après cela, l'humanité a vécu séparée de Dieu, se demandant « Pourquoi Dieu, qui nous a créés, nous a-t-il abandonnés? Pourquoi nous a-t-il laissés tomber dans le péché? Pourquoi nous a-t-il rendus faibles et envoyés en enfer ?» Les gens vivaient avec de tels doutes et ressentiments envers Dieu. En regardant cette personne adoptée, j'ai compris que la relation entre les humains et Dieu est similaire. Aucune épreuve, incompréhension, malédiction ou péché ne peut vraiment séparer Dieu et les humains. J'ai pu comprendre que, tout comme des parents et des enfants peuvent continuer à s'aimer malgré tout, il en est de même pour Dieu et les humains. De même que les parents n'ont pas envoyé leur enfant dans lointaine Allemagne par haine, la seule raison de la distance entre Dieu et les gens, c'est le péché, il n'y en a pas d'autre. Dieu n'a aucune raison de s'éloigner des gens, et les gens n'ont aucune raison de haïr Dieu. Nous nous aimions. Pourtant, les gens sont devenus éloignés de Dieu parce qu'ils ont été trompés par Satan et sont devenus pécheurs. Par Jésus, Dieu nous a pris dans ses bras. Éphésiens 2 verset 13 à 15 déclare « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour abolir la loi avec ses règlements et a pris sur lui les péchés du monde. Ensuite, il a versé son sang et est mort sur la croix. Par le prix de son sang de vie versé sur la croix, il a sauvé toute l'humanité du jugement et du péché. Ainsi, en croyant à cette vérité, désormais chacun peut être accueilli dans les bras de Dieu, et Dieu nous prend dans ses bras, nous qui avons été purifiés. Avez-vous déjà imaginé un monde sans eau? Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu dans une région pour une réunion, et ce jour-là, l'eau du robinet ne coulait pas, si bien qu'après le repas, nous n'avons pas pu faire la vaisselle. J'ai réalisé que les gens ne peuvent pas vivre sans eau. À travers cette expérience, j'ai ressenti une fois de plus de la gratitude pour l'eau que Dieu nous a donnée. Si Dieu retenait l'eau du monde, ne serait-ce qu'un mois, toute la ville deviendrait sale et malodorante, et les gens ne pourraient pas vivre à cause de la soif. Nous devons reconnaître la préciosité de l'eau que Dieu nous a donnée. De même que l'eau est absolument essentielle pour les humains, le baptême que Jésus a reçu de Jean dans la Bible est tout aussi important. Si Jésus était venu sur cette terre et n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, comment les péchés de ceux qui croient en Jésus auraient-ils pu être ôtés? Tout comme les gens ne peuvent pas vivre dans un monde souillé sans l'eau que Dieu donne, si Jésus n'avait pas reçu le baptême de Jean pour prendre sur lui les péchés du monde, alors tous les êtres humains n'auraient eu d'autre choix que de périr à cause du péché. Cependant, parce que Jésus a été baptisé par Jean et a pris sur lui tous nos péchés, nous pouvons croire que tous les péchés du monde ont été lavés et que nous pouvons être sauvés du péché. Dans notre foi en Jésus, le baptême que Jésus a reçu de Jean est extrêmement important. De plus, le baptême de Jésus est une vérité absolument nécessaire pour que nous recevions l'habitation du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, disciple de Jésus, a dit « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Épître de Pierre 3 verset 21. Comme Pierre l'a confessé, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix pour sauver tous les pécheurs de ce monde de leurs péchés, et il a sauvé tous ceux qui croient en cela. Dans le vrai évangile, il y a le baptême de Jésus qui efface tous les péchés du monde. Regardons les paroles concernant la cuve d'airain, telles qu'elles sont rapportées dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'Exode 30 versets 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu feras une LSGE d'airain, avec sa base d'airain, pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » À l'intérieur du tabernacle se trouvait la cuve d'airain, un récipient destiné à contenir de l'eau, placé à côté de l'autel des holocaustes. S'il n'y avait pas eu de cuve d'airain dans le tabernacle, à quel point les corps du souverain sacrificateur et des autres sacrificateurs qui offraient les sacrifices seraient-ils devenus sales? Les sacrificateurs offraient des sacrifices pour le peuple dans le tabernacle, posant leurs mains sur la tête des animaux sacrificiels, les égorgeant, recueillant le sang, l'appliquant sur les cornes de l'autel, retirant les entrailles et enlevant la graisse. En faisant tout cela, combien de sang aurait éclaboussé et combien de saleté se serait déposée sur eux? S'il n'y avait pas eu d'eau dans la cuve d'airain pour le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs travaillant dans le tabernacle, leur corps serait inévitablement devenu sale. C'est pourquoi Dieu a préparé la cuve d'airain afin que les sacrificateurs puissent se présenter devant lui avec un corps pur. Le peuple imposait les mains sur les animaux sacrificiels et leur transférait ses péchés. Après que les animaux étaient tués, les sacrificateurs offraient les sacrifices au nom du peuple devant Dieu. Désormais, Dieu a permis qu'il y ait une cuve dans le sanctuaire où il demeurait, afin que les sacrificateurs puissent laver toutes leurs souillures et être épargnés de la mort qui venait de l'impureté. Même un sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire de Dieu, en tirant le rideau, si ses vêtements étaient tachés du sang des animaux et qu'il était impur. Ainsi, avant de se présenter devant la maison de Dieu, après avoir offert tous les sacrifices pour le peuple, les sacrificateurs puisaient de l'eau dans la cuve d'airain de la tente d'assignation, lavaient toutes leurs impuretés, puis se présentaient devant Dieu. De la même manière, c'est le baptême de Jésus qui a lavé les péchés du monde. De cette façon, Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Par ce baptême, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus et placés sur son corps. Le fait que Jésus soit complètement immergé dans l'eau symbolise sa mort, et le fait qu'il ressorte de l'eau représente sa résurrection. Autrement dit, Jésus a reçu le baptême et a payé le prix du péché, car le salaire du péché, c'est la mort, en mourant sur la croix. Puisque le salaire du péché, c'est la mort de Jésus a été le prix de la vie pour nous sauver de nos péchés. Et par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Cependant, si l'on ne croit pas dans son cœur que Jésus a pris sur lui tous nos péchés par son baptême, alors le cœur sera encore rempli de péchés. Et avec un cœur ainsi souillé, comment quelqu'un pourrait-il se présenter devant Dieu? L'évangile de l'effacement des péchés que Jésus a accompli par son baptême et son sang n'est pas simplement une doctrine. Nous ne devons pas vivre une vie de foi avec une croyance vague et ignorante selon laquelle Jésus, bien qu'il soit Dieu, aurait pu choisir de recevoir le baptême ou non. De même que tous les êtres vivants ont absolument besoin d'eau pour survivre, notre purification du péché requiert aussi absolument l'eau du baptême que Jésus a reçu. C'est par cette foi que nos cœurs sont purifiés, et c'est par cette foi que nous entrons dans le royaume des cieux. Pour nous sauver du péché, Jésus devait absolument recevoir le baptême, mourir sur la croix et ressusciter. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait nous sauver. C'est cela l'évangile de l'eau et du sang, et c'est la foi absolument nécessaire pour nous. Jésus n'a jamais péché ni rien fait qui mérite un châtiment. Il est venu sur cette terre uniquement pour effacer nos péchés, a été baptisé à l'âge de 30 ans, et à 33 ans, il a été crucifié, devenant le sauveur de tous les hommes. Peu importe à quel point une personne est imparfaite ou pécheresse, Dieu voulait faire d'elle son enfant. Alors, Jésus a été baptisé. Ensuite, il est mort sur la croix et il est ressuscité. À ceux qui croient cela, Dieu a accordé l'effacement des péchés et le don du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu », Jean 3 versets 3 à 5. Vous devez savoir et croire que la raison pour laquelle Jésus a été baptisé, c'est pour le lavage de nos péchés. Même si vous êtes un croyant né de nouveau, si vous ne méditez pas continuellement dans la foi sur la vérité que Jésus a reçu le baptême et a pris sur lui tous nos péchés, votre cœur sera rapidement souillé par le péché. Parce que nous vivons dans la chair, nous sommes inévitablement souillés par de nombreuses impuretés dans la réalité. C'est pourquoi nous devons toujours vivre en méditant sur la foi dans le baptême de Jésus, son sang, sa mort et sa résurrection. C'est cette foi qui nous soutiendra jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Jésus devait recevoir le baptême et mourir sur la croix pour ôter nos péchés, et nous devons croire au baptême et à la croix qu'il a reçue. Il nous a sauvés, nous qui étions pécheurs, du péché par son baptême et son sang. Il n'y a rien d'autre que nous devions faire pour être sauvés des péchés du monde, si ce n'est croire en ce bel évangile. Nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur qui nous a donné l'évangile selon lequel Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, les péchés du monde, par son baptême. Le plus grand don que Dieu nous ait donné dans ce monde, c'est que Jésus nous a sauvés du péché par son baptême et son sang. La raison pour laquelle nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu ni être avec lui, c'est parce que nous avions le péché, mais Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et a été crucifié pour porter la punition de ses péchés, abattant ainsi le mur qui séparait l'humanité de Dieu. Par cela, la relation entre Dieu et l'humanité a été restaurée par le baptême et le sang de Jésus. Jésus nous a rétablis dans notre état originel, comme lorsque nous marchions et vivions avec Dieu dans le jardin d'Éden, sans péché. Nous en sommes vraiment reconnaissants. L'amour entre les parents et les enfants sur cette terre est grand, mais il ne peut se comparer à l'amour de Dieu, qui a sauvé les pécheurs par Jésus. Le baptême et le sang de Jésus sont des vérités essentielles auxquelles toute l'humanité doit croire. S'il n'y avait pas d'eau dans ce monde, aucune créature vivante ni aucun être humain ne pourrait survivre. De la même manière, si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean, il n'y aurait pas de croyants sauvés. Si Jésus n'avait pas reçu le baptême de Jean dans le Jourdain et s'il n'était pas mort sur la croix, alors même ceux qui croient en lui n'auraient pas pu devenir des personnes sans péché. Heureusement, Jésus a reçu le baptême et a versé son sang pour nous. Bien que nous soyons imparfaits, c'est en croyant à la fois au baptême et au sang de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui croient au baptême et à la mort de Jésus-Christ peuvent désormais se présenter devant Dieu pour prier et le louer. Nous sommes désormais devenus des enfants de Dieu, propres et sans péché, et nous pouvons donc le louer et l'adorer. C'est la grâce et la bénédiction que Dieu nous a accordée. Le baptême et le sang que Jésus a reçu constituent vraiment un merveilleux et bel évangile. Si nous croyons tous à ce bel évangile dans notre cœur, nous serons sauvés et recevrons l'habitation du Saint-Esprit.